Géopolitique, Éric Bataillon.
Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Géopolitique, un magazine bi-hebdomadaire de la rédaction de RFI, mis en onde et réalisé chaque semaine par Nathalie Laporte. Le 7 octobre dernier, à l'aube, le Hamas lance sur Israël une opération meurtrière depuis Gaza. Il s'agit d'une série d'attaques coordonnées vers les zones frontalières du district sud d'Israël, un jour de Shabbat et le jour de la fête de Simchat Torah. Elles interviennent quasiment 50 ans jour pour jour après le début de la guerre du Kippour, le 6 octobre 1973. En une seule journée, plus de 350 soldats et policiers et plus de 760 civils israéliens sont tués dans les villes voisines, les kibboutz, les bases militaires et lors d'un festival de musique près de Raïm. Environ 200 civils et soldats israéliens sont pris en otage, dont une quarantaine d'enfants. Les terroristes du Hamas enregistrent et diffusent des vidéos de leurs actions sur Internet. En réaction, Israël riposte le même jour avec des bombardements aériens et le renforcement du blocus de la bande de Gaza, en place depuis 2007. À partir du 13 octobre, Israël entreprend une offensive terrestre initialement limitée, puis s'intensifiant à partir du 27 octobre, à un moment où des roquettes palestiniennes continuent d'être tirées sur Israël. 200 000 Israéliens sont évacués par mesure de sécurité. Aujourd'hui, cette guerre entre Israël et le Hamas palestinien boucle son sixième mois et nous tentons d'en tirer quelques bilans avec nos invités. Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris, dernier ouvrage édité, Petite leçon de diplomatie, paru chez Autrement en 2023. Et David Amselem, bonjour.
Bonjour.
Docteur en géopolitique, chercheur associé au Centre Géode pour géopolitique de la datasphère, fondateur et directeur du cabinet Cassini Conseil, spécialisé dans l'analyse géopolitique et la production de cartographie. Nous allons dans un premier temps revenir sur les caractéristiques de cette opération terroriste menée par le Hamas le 7 octobre avec cette question. Comment le Hamas s'est-il préparé à cet envahissement meurtrier ?
Alors, il s'est préparé techniquement grâce à des conseils du Hezbollah et de l'Iran. Mais fondamentalement, c'est quand même pas Austerlitz. Je veux dire par là que les Israéliens ont été beaucoup plus mauvais que le Hamas a été bon. C'est vrai pour les services de renseignement, on pourrait y revenir, et surtout pour la perception de Netanyahou, qui est là quand même depuis 2009, et qui avait considéré que finalement, grâce à l'argent du Qatar et à d'autres revenus, eh bien, le Hamas allait s'embourgeoiser et finalement allait perdre sa caractéristique, sa dimension islamiste radicale, bon, et sa capacité et sa détermination à vouloir frapper. Mais en réalité, le Hamas, outre ses conseils de ses alliés du Hezbollah et de l'Iran, a très bien joué, a joué de ruse en quelque sorte, vous l'avez rappelé, a utilisé un temps qui ressemble, enfin qui rappelle celui du Kippour en 1973, et les Israéliens se sont laissés avoir. Simplement un mot, si vous le permettez, il y a deux dimensions dans cette attaque terroriste du 7 octobre, il y a la dimension militaire, au fond attaquer des bases, même si c'est en Israël, c'est pas sympathique, mais c'est la guerre. Et puis, il y a le pogrom, il y a le gigantesque massacre de civils qui aujourd'hui justifie, en tout cas aux yeux des Israéliens, le caractère très massif de la riposte depuis six mois.
Justement, David Amselem, est-ce que l'aile militaire du Hamas s'est cachée de l'aile politique pour engager cette action ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est que entièrement d'accord avec ce qui vient de se dire, mais il y a quand même une petite nuance, c'est que les services israéliens ont quand même été assez au courant. Il y a des documents, ça a été assez documenté là-dessus. Il y a la fameuse opération Jéricho. Donc les services de renseignement israéliens savaient, ou en tout cas observaient assez minutieusement ce qui était en train de se passer. La vraie différence, et c'est là où il y a une forme d'impréparation politique, c'est que la prise de décision politique n'a pas été faite. Les services de renseignement n'ont pas été bernés. On voit que dans la chaîne de commandement, ça n'a pas suivi. Ce qui est intéressant, et c'est certainement pour ça aussi que ça a bien fonctionné, c'est que les différents rapports qui sont sortis montrent une sorte de déconnexion entre la branche militaire et la branche politique. Les branches politiques sont beaucoup plus faciles à intégrer, pénétrer par des services de renseignement, alors que les branches militaires sont beaucoup plus fermées. Et ce qu'il ressort, c'est que la décision s'est faite à Gaza par la branche militaire et que la branche politique, qui devait avoir vent de quelques rumeurs, n'a jamais été vraiment intégrée dans la prise de décision.
Dans la préparation de cette action, Frédéric Ancel, est-ce que les réseaux souterrains de Gaza ont pu jouer un rôle dans la réussite de cette opération côté palestinien ?
Alors j'ai envie de vous dire qu'ils jouent aujourd'hui un rôle important, parce que sans cet étage, appelons-le comme ça, total, hein, sous le sol de Gaza, le Hamas serait détruit depuis longtemps. Enfin, je veux dire, c'est le rapport de force strictement militaire, il ne fait aucun doute en défaveur du Hamas. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième, c'est sans doute en amont de l'action une trop grande certitude de la part des chefs militaires, parce que au fond, de ce qu'on peut savoir en tout cas, c'est que le Hamas, une partie de ses cadres, n'avait pas anticipé le caractère absolument massif de la riposte israélienne. Et là, il y a eu, de la même manière qu'il y a eu une non-prise en considération, et ce qui a été dit est très juste, bien sûr, de l'échelon politique, et notamment de Netanyahou et de ses proches, de la même manière que le Hamas a lui aussi mésestimé l'adversaire israélien, pensant que, au regard des manifestations qui prévalaient depuis un an dans les rues israéliennes, bah, au fond, la société israélienne était en train de se diluer, enfin de se déliter, et que le gouvernement chuterait et serait obligé de discuter tout penaud de la libération des otages en échange de prisonniers, et que finalement on en resterait là. Or, encore une fois, le caractère littéralement apocalyptique, sinon génocidaire, du coup vis-à-vis des civils du 7 octobre a trompé le Hamas. La branche militaire a sans doute cru qu'Israël allait négocier sans faire trop d'histoire, et en réalité, ils se sont totalement plantés.
L'opération a été menée d'une certaine façon secrètement, finalement, peut-être en dépit ou sans vraiment l'affirmer auprès des politiques du Hamas, côté militaire donc. Quel rôle l'Iran a-t-il pu jouer, et le Hezbollah, dans la préparation des combattants ?
Alors moi, je vais peut-être vous surprendre, mais ce rôle, je ne le vois pas si important que ça. Toutes les sources que j'ai pu obtenir ou consulter depuis 6 mois indiquent que, d'abord, le Hamas a prévenu le Hezbollah et l'Iran une demi-heure, une heure et demie selon les sources, avant le coup de force, donc le matin du 7 octobre, et que d'autre part, l'Iran et le Hezbollah sont extrêmement énervés face au Hamas, considérant qu'ils ont, pardonnez-moi l'expression, salopé le travail. Pourquoi ? Parce que justement, le Hamas ne s'est pas contenté d'humilier le gouvernement israélien, l'armée israélienne, une partie des renseignements en coupant facilement cette barrière qui valait un peu plus d'1 milliard de dollars et en capturant assez facilement plusieurs centaines de soldats, mais en perpétrant ce pogrom. Et du coup, en rendant obligatoire pour n'importe quel gouvernement israélien et non israélien d'ailleurs, une riposte massive. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le Hezbollah et l'Iran ont perdu en crédibilité. Pourquoi ? Je le rappelle d'un mot, l'Iran et le Hezbollah, mais l'Iran notamment, avaient annoncé après le 7 octobre, d'abord que ce n'était pas eux, ils avaient félicité les Palestiniens, mais ils s'étaient immédiatement lavé les mains de toute aide à cette opération, et ils avaient averti Israël que si Israël investissait militairement Gaza, il ferait la guerre. Elle est où la guerre de l'Iran ? Elle est nulle part. Et ça, si vous voulez, c'est un vrai problème de crédibilité.
Dans sa charte de 1988, le Hamas affirme vouloir se servir de la bande de terre de Gaza, non pas pour la gouverner, mais comme base pour mener ses attaques contre Israël jusqu'à sa destruction. Cet élément fondamental donc pour l'organisation islamiste a-t-elle été négligée, David Amselem, ou pour le moins minimisée par les autorités israéliennes successives ?
Bah, très clairement, et ça a été rappelé au démarrage, je pense que les Israéliens et le gouvernement Netanyahou en tête ont considéré qu'ils pouvaient manipuler, ou en tout cas composer avec le Hamas, ce qui n'a pas été le cas. Les Palestiniens de Gaza, enfin le Hamas, s'est joué du gouvernement. Tout n'a pas été secret, c'est-à-dire qu'on le disait sur la question des tunnels, effectivement toute la base logistique, opérationnelle, le stockage d'armes, etc., tout ça est enfoui, mais rappelez-vous, il y a quand même eu des simulations d'attaques, de prises de postes et de bases avancées israéliennes. Tout ça a été fait, documenté quelques mois avant, au mois de juillet déjà, il y avait des entraînements qui avaient été faits. Donc le Hamas, en fait, n'a jamais caché ses intentions. C'est simplement qu'avec le temps et avec évidemment l'argent et puis quelques signaux faibles, en fait, de tromperie très classique politique, le Hamas a laissé entendre, ou en tout cas a fait croire au gouvernement israélien qu'il pouvait rentrer dans une forme de coopération et qu'il se rangerait dans le rang, ce qui n'a clairement pas été le cas.
D'où la question suivante, pourquoi Israël n'a rien vu venir, malgré cette charte fondatrice et malgré les informations collectées par les services de renseignement israéliens ? Que s'est-il passé ?
Je pense qu'en fait, c'est une sorte de... les Israéliens ont été victimes d'une doctrine qui a été émise, je pense, par le gouvernement Netanyahou dès son arrivée au pouvoir, enfin, dès son retour au pouvoir en 2009, c'est-à-dire qu'il fallait non plus composer avec le Hamas directement, il fallait l'enfermer et isoler ce territoire comme une menace sécuritaire. Et donc, c'est ce qui a été fait depuis 2009-2010. Les Israéliens, en fait, ont pris leur autonomie, se sont extraits même du conflit israélo-palestinien, la rentrée dans l'OCDE, etc. C'est une volonté de s'exporter vers l'étranger. Et en fait, ils ont voulu faire oublier le conflit israélo-palestinien. C'est ce qui s'est passé. Et je pense que tout simplement, ils ont été bernés. Et je pense qu'ils ont même cru à leur propre rhétorique politique. C'est-à-dire que Netanyahou et le gouvernement Netanyahou a réussi à faire croire aux Israéliens que la question palestinienne était une non-question, puisqu'il n'y avait plus de partenaires, parce que la menace sécuritaire n'existait plus, et qu'à chaque fois que, de toute manière, d'un point de vue militaire, le Hamas envoyait une menace, les Israéliens s'adaptaient. C'est-à-dire que le dôme de fer, c'est ça. C'était aussi la promesse que le Hamas, qui envoyait des roquettes, qui étaient quand même au démarrage assez traumatisant pour la population, ne passerait plus. Et donc, en fait, c'est la réponse technologique qu'a proposé Netanyahou pour isoler la menace du Hamas, qui, à mon avis, bernait le gouvernement israélien et qui a fait croire à la population israélienne que cette menace était désormais inexistante ou en tout cas maîtrisée.
Frédéric Ancel, y a-t-il, selon vous, une faute politique ?
Alors, je suis en accord total avec ce qui a été dit. J'ajoute un point très important et qui me tient à cœur, vous le savez, moi qui suis un modeste disciple du grand Yves Lacoste, les représentations. La représentation, c'est-à-dire la perception identitaire qu'un Netanyahou et que les nationalistes israéliens et que d'autres parties de la classe politique aussi d'ailleurs, mais Netanyahou en particulier, ont des Palestiniens et des Arabes de manière générale, c'est au fond des gens qui s'adapteront pour peu qu'il y ait un petit peu d'argent dans la bande de Gaza, ils construiront, ils géreront leurs affaires. Et puis, le tout technologique va les dissuader de nous attaquer. Effectivement, ce qui a été dit est très juste. Le dôme de fer va leur faire comprendre que de toute façon, ils n'arriveront pas à grand-chose avec. Et on pourra continuer cas un cas de cette manière-là. Et cette représentation, quelque part dévalorisante de l'adversaire, elle renvoie à ce que vous disiez à très juste titre au début de l'émission, quand vous avez présenté l'émission, vous avez renvoyé à 73. Mais enfin, il faut se souvenir d'un Moshe Dayan, le général prestigieux israélien qui avait remporté deux victoires absolument massives en 56 et en 67, qui, quelques jours avant l'offensive syro-égyptienne de la du Kippour, le 6 octobre 73, disait crânement dans un journal américain « Mais non, mais les Arabes, de toute façon, ils ont reçu une bonne leçon et ils n'attaqueront pas avant au moins 10 ans, quelques jours avant l'attaque israélienne. » Donc, effectivement, ce qui a été dit par David Amessel est juste, c'est pas un problème de renseignement. D'ailleurs, on le voit bien aujourd'hui, puisque que le Mossad et l'Aman, les renseignements militaires, portent des coups terribles à l'Iran et à ses alliés, au Liban, en Syrie, en Irak et sans doute en Iran même. En revanche, la faute politique, pour vous répondre d'un mot, elle est là, elle est massive, elle est totale, c'est au-delà même d'une faute politique. Et aujourd'hui, entre 70 et 80% des Israéliens considèrent, donc ça va au-delà d'une gauche qui d'ailleurs est très moribonde, considèrent depuis le 7 octobre que le gouvernement Netanyahou est responsable de cette erreur.
Vous écoutez Géopolitique.
Examinons maintenant ce que cet assaut du 7 octobre a constitué pour les deux camps. Et alors, côté israélien, en quoi cette attaque meurtrière terroriste a-t-elle constitué un traumatisme que certains n'hésitent pas à assimiler à une seconde Shoah ? David Asmel.
C'est assez évident et on voit très nettement que la société israélienne a été profondément choquée et traumatisée. Il faut rappeler le caractère de proximité de cette attaque, c'est-à-dire des terroristes qui rentrent dans les maisons, qui enlèvent les enfants, dans une population qui a été marquée, souvent certains par la Shoah directement ou indirectement. On a tout un mythe qui s'est effondré aussi en Israël, celui selon lequel l'État d'Israël était un refuge et garantirait le plus jamais ça, en référence évidemment à la Shoah. Et là, on se retrouve à un moment de fête et de célébration avec des hordes de terroristes, parce que ce sont plusieurs milliers de personnes qui sont rentrées en Israël, dans les maisons, avec un temps de réponse qui a été quand même assez long. Il a fallu entre 48 et 72 heures aux Israéliens pour enfin sécuriser des zones qui avaient été occupées. Et donc, le traumatisme est énorme. Le profil des victimes, parce qu'on l'a dit, vous l'avez rappelé, il y a des militaires, mais pas que. Il y a aussi beaucoup de civils qui ont été parfois exécutés dans des conditions atroces. Et donc, évidemment, la société israélienne a été extrêmement mobilisée. Et on le voit aujourd'hui dans la riposte qui a été faite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Israéliens, le gouvernement Netanyahou répond, mais est-ce qu'un autre gouvernement de gauche, de droite, peu importe, aurait pu faire différemment. Quand on voit aujourd'hui la mobilisation de l'armée, des soldats blessés qui demandent à être réintégrés dans leurs unités, des gens qui sont mobilisés, des milliers d'Israéliens à travers le monde qui rentrent en Israël pour être appelés, certains, enfin, il y avait des files d'attente monstres pour être appelés dans les unités, je pense que
les autres orthodoxes aussi.
Y compris effectivement les orthodoxes qui sont connus, en fait, pour ne pas s'engager et qui sont assez détachés de la chose militaire, il y a, en fait, une unité qui s'est créée face au traumatisme qu'a créé cette attaque à bien des égards.
Et Frédéric Ancel, il faut ajouter que ces attaques ont aussi touché beaucoup de kibboutz de l'ouest, donc le long de la frontière avec Gaza, kibboutz plutôt de gauche, et donc avec des gens qui étaient plutôt conciliants vis-à-vis du reste de la population palestinienne.
Oui, la sur-tragédie de l'histoire, et j'ai envie de dire, c'est que ce sont des gens qui non seulement sont de gauche, parfois d'extrême gauche, qui demandaient au gouvernement et qui obtenaient souvent des passes pour que des Palestiniens puissent travailler, soit chez eux, soit en Israël de manière plus générale. Ce sont des gens qui sont favorables en général à la solution des deux États, bien évidemment, dont un État palestinien. Et puis ce sont des gens qui sont majoritairement ashkénazes, donc effectivement dont les parents ou les grands-parents ont vécu la Shoah. Donc de ce point de vue-là, on a un traumatisme pour les Israéliens qui dépasse celui de la guerre du Kippour, parce qu'au fond, on avait assisté entre guillemets seulement à un choc entre soldats et chars d'assaut et avions de combat, mais les civils n'avaient pas été directement touchés pour l'essentiel. Pareil évidemment en 56 et en 67. Et là, beaucoup d'Israéliens assimilent ça à une marche de la mort. Donc ce qui vient d'être dit est très juste, et je pense que ça restera profondément ancré dans la psyché israélienne comme quelque chose qui n'a pas été déclenché, par exemple, par le Hezbollah, ou par des spadassins envoyés par l'Iran, ni même par l'autorité palestinienne. C'est intéressant, ça, quand même. Au fond, le seul vrai pogrom perpétré ces dernières décennies sur le sol israélien, et dans les conditions atroces qu'on a vues, c'est par le Hamas, un mouvement islamiste radical dont une partie de la population israélienne et dont le gouvernement israélien avait oublié quelle était sa nature profonde. Radical, politique, qui ne cherche pas prioritairement un État palestinien, qui cherche à reconstituer l'Oumma fantasmée, etc. C'est-à-dire qu'on est quand même sur des fondamentaux qu'on avait eu tendance à oublier, nous autres occidentaux et français en particulier.
Et côté palestinien, la riposte israélienne que l'on connaît, elle semblable, pourquoi, au traumatisme de la Nakba? Pourquoi c'est ressenti comme cela aujourd'hui?
Alors, beaucoup de Palestiniens considèrent que les Israéliens, entre guillemets, pardon de l'expression, refont le coup de 48. Je veux dire par là que quand vous écoutez les Palestiniens, ils vous disent oui, bon d'accord, alors selon les Palestiniens, oui, il y a eu massacre, beaucoup disent non, c'est pas vrai, c'est de la propagande, certains disent oui, mais enfin quand même, il y a eu l'occupation, peu importe. Mais en tout cas, l'attaque du Hamas, ça, elle est vérifiée, quelle que soit la manière dont on la qualifie. Mais beaucoup de Palestiniens disent, alors en riposte, les Israéliens ne se contentent pas de faire la guerre, on a le droit de riposter quand c'est la guerre, mais cherchent à chasser la population palestinienne de la bande de Gaza, en l'occurrence vers le Sinaï égyptien, reperpétrant ce qu'ils ont fait, disent les Palestiniens, en 1948. En fait, c'est plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis d'eux-mêmes, certains ont été chassés. Donc là-dessus, il y a des débats d'historiens, mais enfin, il y a de toute façon entre 600 et 700 000 Palestiniens qui, effectivement, ont dû quitter leur foyer. Ça, c'est incontestable en 1948, ce qu'on appelait la Nakba. Et donc aujourd'hui, il y a ce traumatisme qui revient sur la base de « Regardez, ils essayent de faire ça maintenant dans la bande de Gaza pour nous repousser encore, en l'occurrence dans le Sinaï égyptien. » Ce que ne veut évidemment pas l'Égypte, puisque la frontière est bloquée de manière totalement hermétique. Alors, ça concerne sans doute moins les Palestiniens de Cisjordanie, encore que c'est un discours que vous entendez aussi de l'autre côté, du côté cisjordanien.
Et au-delà de Gaza, David Amselem, le traumatisme touche-t-il également les relations en Israël, entre Israéliens et Israéliens-Palestiniens, et puis aussi côté Cisjordanie, hein, bien sûr, entre les Palestiniens et les colons?
Alors, en Israël, paradoxalement, les choses se sont passées de manière beaucoup plus douce, entre guillemets. Et il y a eu un vrai effort qui a été fait par les politiques israéliens en direction de la population arabe, avec des sites d'information, des chaînes médias en arabe qui ont expliqué à la population arabe-israélienne la nature de l'attaque, les dangers pour eux également. Et donc, en fait, il y a eu des sondages qui ont été réalisés dans la société israélienne auprès des Arabes israéliens qui montrent que finalement, la très grande majorité de la population arabe-israélienne condamne et soutient même l'action d'Israël. Alors, il faudrait refaire ça aujourd'hui, mais en tout cas, dans les premiers mois du conflit, le soutien était assez massif. D'ailleurs, dans les hôpitaux israéliens où un certain nombre d'Arabes israéliens travaillent en tant que médecins ou infirmiers, le personnel n'a pas fait de défection. Donc, en réalité, au niveau israélien, la menace est perçue de manière assez commune, les vidéos ont tourné, enfin il y a eu vraiment un effort qui a été fait par Israël en direction de la population arabe. Vis-à-vis de la Cisjordanie, c'est un peu plus compliqué. D'ailleurs, même à Gaza, ça a été le cas. Dans les premières heures, premiers jours du conflit, je pense qu'il y a eu un sentiment d'euphorie partagée par les Palestiniens et un sentiment de revanche. C'est-à-dire que la situation politique était bloquée et beaucoup ont vu, en tout cas, cette attaque comme un moyen de rebattre la carte. D'où, en fait, l'euphorie qu'on a vue à Gaza au démarrage, mais y compris en Cisjordanie. On en parle assez peu, mais dans les territoires palestiniens de Cisjordanie, il y a énormément de tensions, de rivalité, de conflits et de débordements.
David Amselem, Frédéric Ancel, on se retrouve dans 10 minutes pour la seconde partie de l'émission. Tout de suite, le journal.
Géopolitique, Éric Bataillon.
7 octobre 2023, 7 avril 2024, la guerre entre Israël et le Hamas, que ce dernier a déclenchée par son attaque terroriste et meurtrière, boucle ce dimanche son 6e mois. Nous tentons d'en tirer quelques enseignements avec nos invités Frédéric Ancel, maître de conférence à Sciences Po Paris, et David Amselem, directeur du cabinet de conseil en cartographie et géopolitique, Cassini. Ce conflit est également une guerre de l'information et l'on peut se demander quel en serait le vainqueur à ce jour. Depuis le 27 octobre, on l'a dit, l'armée israélienne a intensifié son action militaire dans la bande de Gaza, dont la partie nord serait au bord de la famine, selon les Nations Unies. En dépit des condamnations internationales unanimes, cette action perdure, malgré les pertes de vie civile palestinienne, femmes, enfants, vieillards. Le gouvernement israélien a-t-il mené une bataille de l'information particulière, David Amselem ?
Très clairement, cette guerre, comme la plupart des guerres, s'est accompagnée par un volet informationnel. Et on voit aujourd'hui une lutte de narratif. Et ça, c'est assez clair. Ce conflit-là, qui dure depuis 6 mois, est marqué par des phases très différentes. Il y a eu, dans les premiers temps du conflit, une sorte de soutien assez unanime des puissances occidentales et une réserve partagée des puissances arabes alliées d'Israël. Donc le choc de l'attaque était tellement fort que... très naturellement, les États, ce sont, et en particulier les États occidentaux, ont fait bloc autour d'Israël. Et à mesure, mais c'était prévisible, à mesure que l'attaque israélienne allait avancer, s'intensifier avec les morts civiles qui allaient augmenter, on voit un lâchage progressif, diplomatique et médiatique, avec des narratifs très intéressants à observer. C'est-à-dire qu'au démarrage, quand on parlait de mots comme atrocité, violence et génocide, c'était plutôt pour caractériser l'attaque du Hamas contre Israël. Aujourd'hui, le champ lexical s'est complètement retourné et on voit une offensive narrative qui se fait de ce côté-là avec des enjeux politiques extrêmement forts. Parler par exemple aujourd'hui de génocide pour qualifier ce qu'est en train de faire Israël à Gaza est un acte politique extrêmement fort qui a des enjeux politiques et stratégiques. Il y a derrière évidemment une volonté de délégitimer l'action d'Israël à Gaza, évidemment, mais au-delà de ça, la capacité à Israël à exister en tant qu'État, le fait que ses fondements soient un fondement colonial, comme c'est dit, et donc on voit une remise en question de tout le narratif qui a prévalu pour Israël depuis des décennies, et on voit qu'il y a des acteurs informationnels qui se mobilisent, d'ailleurs, un peu partout dans le monde. On voit très bien, par exemple, le rôle de médias comme Al Jazeera, médias qatari, proches donc, de la mouvance des frères musulmans, qui abondent énormément dans le sens de ces narratifs-là. Vous avez la chaîne satellitaire, mais de manière beaucoup plus efficace, vous avez la version en ligne et numérique. La version AJ+, qui est la version numérique d'Al Jazeera, est extrêmement efficace, pertinente et produit du contenu informationnel très hostile à Israël, avec parfois des messages qui sont à la limite. En fait, on ne sait pas si c'est soit de la théorie du complot, soit des éléments qui sont parfois très grossiers, qui se diffusent de manière massive. Ça se compte en milliards de vues sur les réseaux sociaux. Donc c'est quand même assez important et les Israéliens essayent de riposter. Et on a vu les gens qui travaillent là-dessus ont observé ça depuis le début du conflit. Les Israéliens ont déployé beaucoup, beaucoup d'énergie pour essayer d'expliquer l'action qu'ils étaient en train de mener et donc d'imposer aussi leur narratif.
En direction de quel public ? Est-ce que c'est en interne ? Est-ce que c'est à l'international ?
C'était vraiment en direction de tous les publics. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté d'informer la population israélienne pour justifier et assurer la mobilisation de la population civile et militaire. En direction des partenaires arabes, avec tout un narratif qui a été développé en arabe, avec des relais saoudiens, émiratis et partout dans le monde arabe. Et vous avez évidemment un énorme travail qui a été fait en anglais à destination des chancelleries occidentales pour essayer d'obtenir le plus longtemps possible le soutien occidental, ce qui a marché mais qui commence désormais, on le voit, à s'effriter.
Frédéric Ancel, est-ce que cette guerre de l'information est aussi une guerre qu'il faut absolument gagner pour chacun des deux camps ?
Non, je ne le crois pas. Je me suis toujours beaucoup méfié de l'importance qu'on donnait, alors parfois de manière assez paresseuse chez beaucoup d'observateurs, au concept d'opinion publique ou au concept d'information. C'est mieux de gagner dans un conflit, enfin dans un rapport de force de manière générale d'ailleurs, même s'il n'est pas de nature militaire. C'est mieux de gagner tout. Oui, bon, c'est d'accord, puis quand il pleut, ça mouille. Mais en même temps, moi je vous dirais que l'essentiel aujourd'hui, c'est de disposer de chasseurs-bombardiers dernier cri, d'un PIB tout à fait important, de systèmes de notation de très grands groupes qui maintiennent en réalité une note tout à fait intéressante en faveur d'Israël, et le soutien, quoi qu'on en dise, hein, bon, même s'il l'insulte plus ou moins en privé, le soutien de Joe Biden à l'armée israélienne. Le reste, si vous voulez, me rappelle que l'opinion publique n'a pas de chasseurs-bombardiers, n'a pas de PIB. Et l'opinion publique, elle n'est pas quantifiable. Et elle est extraordinairement fluctuante. Et ce n'est pas elle, à la fin des fins, qui aura le dernier mot sur l'entité qui dirigera la bande de Gaza. Donc je ne suis pas en train de vous dire que ce n'est pas important. Je suis en train de vous dire que ce n'est pas primordial au sens étymologique du terme. Le primordial, c'est un certain nombre de critères constitutifs des rapports de force, et notamment l'économique et le militaire.
Néanmoins, côté palestinien, les rares sondages d'opinion qui remontent du terrain semblent accorder un immense crédit au Hamas. Sortirait-il lui aussi vainqueur de cette confrontation déséquilibrée qu'il a lui-même provoquée?
Alors d'abord, aujourd'hui, un sondage effectué dans la bande de Gaza, si vous voulez, je regarde à deux fois la scientificité du truc. Bon, d'autant que le Hamas est une organisation maintenant, une férule de type totalitaire. Maintenant, en Cisjordanie, c'est déjà plus sérieux. Et vous avez effectivement un certain nombre de sondages qui reconnaissent au Hamas une véritable importance. Est-ce que ça signifie que ces gens-là voudraient avoir le Hamas au pouvoir? Ce n'est pas du tout évident. Premier point. Deuxième point, il n'y a plus d'élection et pour cause depuis janvier 2005. Merci Mahmoud Abbas, qui effectivement, le président de l'autorité palestinienne, qui avait peur de chuter face au Hamas, qui avait remporté des élections législatives en 2006. Oui, mais c'était en 2006. Deuxième point. Troisième point, il y a eu des manifestations à maintes reprises, alors qu'ils étaient massives ou pas, je ne sais pas, en tout cas de vraies manifestations, y compris dans la bande de Gaza, contre le Hamas, pour lutter contre la corruption de ses caciques, de ses chefs, et pour lutter sans doute aussi contre sa férule théocratique et totalitaire. Bah oui, mais ça, on n'en tient pas compte, vous voyez. Donc moi, j'attendrai quand même de la fin de la guerre pour savoir si, oui ou non, les Palestiniens, notamment à Gaza, préfèrent le retour d'une autorité palestinienne qui serait expurgée des pires corrompus qu'elle a pu connaître naguère, et qui serait massivement soutenue par vos impôts et les miens, par les impôts des Saoudiens, des Émiratis, des Américains, des Japonais et autres Canadiens, pour reconstruire Gaza, ce dont je me félicite. Je me féliciterai, en tout cas. J'espère que ça va se passer comme ça, et je le crois. Ou avoir toujours au pouvoir des gens qui captent l'essentiel des fonds extérieurs pour leur propre salut, pour leur tunnel et pour leur fusée. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas.
David Amsellem, pour revenir sur cette guerre de l'information, est-ce qu'aujourd'hui, Israël a une stratégie particulière qu'il mène, notamment sur les réseaux sociaux, pour convaincre les opinions publiques en interne et en externe du bien fondé de son action à Gaza?
Alors oui, et c'est là où j'apporterai simplement une petite nuance avec ce qui vient d'être dit. Effectivement, pour le cas des conflits, les bombardiers, l'armement, c'est primordial. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui fournit Israël? Ce sont les Américains. Et aujourd'hui, on voit bien que dans le cadre des élections américaines, Joe Biden est très contrarié ou embêté parce qu'une partie de l'opinion publique américaine se mobilise parfois assez fortement et impose, à mon sens, à l'administration Biden de réorienter ses vues. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus être aussi pro-israélienne qu'elle l'a été au démarrage du conflit. Et on voit bien des initiatives d'envergure, notamment dans le Michigan, avec une importante présence d'une communauté arabe sur place qui se mobilise et qui en fait incite les jeunes à ne pas voter. Et on sait que dans l'état du Michigan, ça s'est joué à quelques dizaines de milliers de voix pour Biden à la dernière élection. Et certains craignent aux États-Unis que ce vote-là de jeunes, notamment pro-palestiniens, fasse défaut lors de la prochaine élection. Et donc on a vu par exemple que le Canada avait arrêté de livrer des armes à Israël. La France, il y a un débat qui est lancé notamment par certains politiques LFI pour arrêter les exportations d'armes à Israël. Et d'ailleurs, on voit bien que le ministre de la Défense français, ministre des Armées, explique que ça y est, l'armement n'est plus livré à Israël. Donc on voit bien qu'il y a une importance pour les soutiens d'Israël à justifier les actions. C'est beaucoup plus facile pour les alliés d'Israël à fournir des armes et à le soutenir politiquement qu'Israël arrive à mener sur le terrain une opération défendable. Et donc ça, je réponds là à votre question. C'est pour cette raison que les Israéliens ont déployé beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, beaucoup d'hommes sur place pour expliquer que ce qu'ils font à Gaza, c'était en respect du droit international, même si ce n'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ils l'expliquent, ils le documentent, ils développent des relais, il y a des unités au sein de l'armée qui sont dédiées pour ça, elles ont d'ailleurs grossi leurs effectifs, ils ont embauché dans plein de langues différentes, et donc il y a un enjeu derrière qui n'est pas évidemment primordial, puisque ce n'est pas là que la bataille va se gagner, mais c'est un des volets qui fait partie de la guerre totale, avec des gros guillemets, et il y a une nécessité pour les Israéliens d'investir ce champ-là. Et ils le font de manière massive, et comme ça n'a jamais été fait auparavant, dans aucun des conflits précédents.
Frédéric Ancel.
Oui, alors, à mon tour d'apporter une nuance, d'abord, une partie du gouvernement israélien est constituée de fanatiques qui se fichent complètement de savoir ce qu'on pense à l'étranger. Et malheureusement, ces gens-là, il y a au moins 3 ministres du gouvernement israélien qui sont des extrémistes, et par ailleurs, des gens parfaitement incompétents, ce sont les Israéliens qui le disent eux-mêmes, notamment en matière stratégique et militaire. Or, ils ont voix au chapitre sur le plan financier. Par ailleurs, dans le Michigan... Ce qui a été dit est très juste, sauf que si moi je suis électeur démocrate, dans le Michigan, et que je n'apprécie pas la politique trop favorable à Israël de M. Biden, je ne m'abstiens pas, parce que sinon je mets Trump au pouvoir, ce qui serait complètement idiot. Dernier point, le Canada et la France ne vendent pratiquement rien, en fait, à Israël en termes d'armes offensives. Je ne dis pas que ça n'existe pas, l'opinion publique. Je ne dis pas qu'elle ne pousse pas cette ou ces opinions publiques à un moment M, des gouvernements, notamment dans le monde démocratique, puisqu'évidemment, par définition, on est obligé d'en tenir compte lorsqu'on est au pouvoir, parce qu'on aime bien en général être réélu. Je ne dis pas qu'on n'en tient pas compte, mais regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Joe Biden a, dit-on, chez beaucoup d'observateurs, changé de politique vis-à-vis d'Israël du fait de la pression de l'opinion publique en s'abstenant lors de cette fameuse résolution à l'ONU. Mais enfin, cette résolution, de toute façon, elle était liée à la libération des otages dont ne veut pas évidemment aujourd'hui le Hamas. Donc c'est du cosmétique, parce que fondamentalement, 3 jours plus tard, l'administration, le même Joe Biden, en tant que président des États-Unis, valide la livraison d'armement de pointe à Israël. Donc, encore une fois, oui, ça existe. Pour moi, ce n'est pas le volet principal de la guerre.
Et est-ce que des faits d'actualité, comme par exemple, côté israélien, le meurtre de 7 humanitaires qui avaient pourtant le feu vert d'Israël pour distribuer de l'aide à Gaza, peut remettre en cause, par exemple, toute la stratégie de communication d'Israël pour la suite ?
Ça va pas la remettre en cause. Disons que c'est une épine dans le pied de la communication d'Israël. Et donc, on voit bien comment le gouvernement israélien aujourd'hui essaye de se justifier en expliquant que ça a été fait de manière non intentionnelle, que des enquêtes vont être poursuivies. Mais en fait, l'enjeu pour Israël, c'est toujours d'expliquer, en tout cas d'un point de vue de la communication, contrairement aux guerres précédentes où ils ont délaissé complètement ce volet-là et ils en ont payé parfois durement les conséquences, là, il y a une volonté manifeste d'investir ce champ et quoi qu'il arrive, et d'imposer le narratif d'Israël partout, à tout moment. Et on le voit donc, notamment, par exemple, sur l'hôpital d'Al-Shifa à l'époque, au démarrage du conflit, qui avait été, en fait, pas du tout bombardé par eux, mais très certainement par une roquette palestinienne qui était tombée sur l'hôpital, avec un nombre de morts qui était beaucoup moins élevé que ce que disait le Hamas. Et donc, les Israéliens investissent chaque champ de la communication à tous les publics. Et donc, ce qui vient de se passer là, évidemment, on voit bien la condamnation unanime, notamment des puissances occidentales. Et donc, les Israéliens sont en train de justifier, d'expliquer que ça a été non intentionnel. Donc, ils apportent des garanties pour, en fait, ne jamais tomber et de pas donner d'éléments à la partie adverse pour expliquer que c'est un régime autocratique, totalitaire, génocidaire, etc.
Frédéric Ancel, est-ce que, par exemple, côté palestinien, l'irruption de la famine possible, peut-être même probable, dans le nord de Gaza pourrait être, elle aussi, une épine dans le pied du Hamas ?
Alors oui, je le crois, mais à une condition qui pour l'instant n'est pas apportée par le gouvernement israélien, ce qui en droit international est aberrant d'ailleurs, c'est-à-dire de l'approvisionnement massif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et pas seulement en temps de guerre, je suis toujours très surpris d'entendre des gens ou de lire des gens qui considèrent que tous les matins du monde, un Palestinien et un Israélien se réveillent avec le couteau entre les dents à savoir comment il va mieux tuer son adversaire. C'est pas comme ça que ça marche. Les gens veulent d'abord manger correctement, veulent nourrir leurs enfants, veulent soigner leurs enfants, veulent que leurs enfants puissent aller à l'école, etc., etc. Alors, en phase de guerre, évidemment, c'est encore beaucoup plus aigu. Si le Hamas n'est pas capable d'assurer la paix, c'est le moins qu'on puisse dire, dans la bande de Gaza, s'il n'est pas capable d'assurer, à minima, une expression démocratique, là aussi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et si, en plus de ça, il attire les foudres d'Israël sans l'emporter victorieusement sur le plan militaire et sans permettre à la population de se nourrir, évidemment, les gens ne vont pas, dans les prochains mois, aller vers le Hamas. Sauf que le gouvernement israélien, me semble-t-il, a négligé gravement, et là pour le coup il n'aurait pas fallu de la très haute technologie sur le plan communicationnel, mais je parle bien sûr sous le contrôle de David Amsalem, je ne connais pas bien ces outils communicationnels extrêmement modernes, mais il n'aurait pas fallu autre chose que des camions apportant de la nourriture frappés de l'étoile de David pour que des Palestiniens ne deviennent évidemment pas sionistes ou israéliens ou adhérents au Likoud, c'est pas le problème, mais qu'ils puissent quand même vivre dans des conditions plus décentes que celles qui prévalent aujourd'hui, et qu'ils puissent effectivement s'exprimer davantage, peut-être déjà, contre le retour éventuel du Hamas.
Attachons-nous maintenant aux perspectives politiques et pour quelque temps encore malheureusement militaires. Comment voyez-vous la suite du conflit ? Y a-t-il un risque que celui-ci s'étende dans la région, comme par exemple au Liban ?
Alors moi, je ne l'ai jamais cru et je continue de ne pas le croire, pour deux raisons. D'abord, parce que chacun a son agenda. Et l'agenda prioritaire du Hezbollah et l'agenda prioritaire de l'Iran, croyez-moi, ce ne sont pas les Palestiniens. Les Palestiniens sont une cause instrumentale pour le Hezbollah et l'Iran, et de toute façon, ils ne sont même pas chiites. Donc ça, c'est le premier point. Et d'ailleurs, c'est vrai pour les autres pays arabes. Le deuxième point, c'est que le Hezbollah et l'Iran, contrairement au Hamas, jaugent de manière extrêmement fine les rapports de force. Voilà une République islamique d'Iran au pouvoir depuis 1979 qui n'a jamais frontalement fait la guerre à Israël. Voilà un Hezbollah créé de toutes pièces par Téhéran en 1982 qui n'a lui-même jamais frontalement, massivement fait la guerre à Israël, qui maintient une guerre de basse intensité depuis le 7 ou 8 octobre, qui d'ailleurs lui coûte très cher, mais qui ne va pas jusqu'au bout de ses capacités, loin s'en faut. Et donc moi je pense qu'on a affaire à des régimes, alors infra-étatiques et étatiques respectivement, qui savent ce qui leur en coûterait, surtout en ce moment, avec un gouvernement, une armée, un état-major très dangereux, objectivement, sur le plan militaire, en Israël après le 7 octobre, ce qui leur en coûterait de faire massivement la guerre. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je suis très optimiste, sans pensée magique, ça ne me ressemble pas, à court terme, sur trois conditions pour la reprise d'un véritable processus de paix. Je l'ai dit à chaque fois en un mot. Première condition, la chute militaire du Hamas dans la bande de Gaza. Je pense que c'est réellement une question de semaines, sinon et certainement pas de mois. Deuxième condition, la chute du gouvernement israélien, qui est vraisemblablement acté à très court terme aussi. Et enfin, et c'est très lié, le retour de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza, qui en a été chassée par un coup de force très meurtrier du Hamas en 2007. Tout ça n'est pas de la pensée magique, on est en train d'y parvenir, et à ces trois conditions, et si vous me permettez une cerise sur le gâteau, la réélection de Joe Biden aux États-Unis, on peut parfaitement espérer, à court terme, la reprise, je ne dis pas la paix, je dis la reprise d'un vrai processus de négociation.
David Amselem, sur le terrain, en Israël, les gens recommencent à manifester, comme il y a à peu près un an et demi. Ce sont des manifestations anti-Netanyahou. Une démission du Premier ministre est-elle envisageable dans les semaines ou mois qui viennent, voire une destitution ?
C'est très compliqué à l'imaginer, mais c'est clair que plus le temps va passer, plus la pression va s'accentuer sur le gouvernement Netanyahou. L'armée israélienne avance et avance selon ses objectifs à Gaza. Et au bout d'un moment, ils seront arrivés au bout de l'opération. C'est-à-dire qu'il reste encore, à mon avis, quelques semaines, quelques mois d'opérations assez intensives. Mais au bout d'un moment, il n'y aura plus rien à faire à Gaza. Et donc la question va se poser de la fin du gouvernement Netanyahou. En tout cas, une commission d'enquête devra être faite avec les conséquences pour lui, qu'on peut déjà assez bien imaginer. Sur la question régionale, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. On a bien vu depuis le début octobre que même si les Iraniens, ou en tout cas leur proxy et le Hezbollah, essayent d'agiter un petit peu, ou en tout cas de provoquer Israël, on comprend bien que personne n'a intérêt à l'embrasement. Même si on voit qu'à chaque fois, il y a une petite escalade. Et là, récemment, le bombardement israélien en Syrie qui a tué un haut gradé iranien démontre qu'il y a quand même une petite montée, ce qui ne veut pas dire qu'on va déborder dans une guerre généralisée.
À ce même micro, la semaine dernière, dans Orient Hebdo, l'historien du Proche-Orient, Jean-Pierre Filiu, estimait que la seule solution politique viable pour deux peuples qui se partagent la même terre, c'est une solution à deux États. Cette hypothèse vous semble-t-elle encore d'actualité aujourd'hui, Frédéric Ancel ?
Plus que jamais. Pourquoi ? Parce que les Israéliens et les Palestiniens ne veulent pas vivre ensemble. Je ne parle pas des Arabes israéliens, ce qui a été dit est très juste tout à l'heure. Je parle des Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Ils ne veulent pas vivre ensemble. Donc pourquoi et de quel droit, j'allais dire moral, nous autres occidentaux, devrions-nous nous substituer à eux et leur imposer une vie commune ? Et moi, je suis très fan de la frontière, qui ne doit pas mécaniquement apparaître comme un front militaire, qui ne doit pas nécessairement correspondre à ça. Si un jour ça devient un front, ce sera un front. On en a vu d'autres dans l'histoire. Mais la frontière permet d'établir deux souverainetés marquées au sol, après négociation bien évidemment, avec pour chacun des deux peuples l'intégralité des critères et des paramètres de la souveraineté.
Merci Frédéric Ancel, docteur en géopolitique, maître de conférence à Sciences Po Paris. Dernier ouvrage paru, c'est Petites leçons de diplomatie chez Autrement en 2023. Et merci David Amselem.
Merci Eric Bataillon.
Directeur du cabinet de conseil en géopolitique et cartographie Cassini. Merci à Nathalie Laporte et Cécile Lavolo pour leur contribution essentielle à cette émission. Prenez soin de vous, dans un instant, le journal.